Europe 1, jusqu'à 20h, les éclaireurs. Nicolas Escoulan.
Les éclaireurs, le rendez-vous de celles et ceux qui sont déjà dans le monde de demain. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver avec, comme chaque dimanche soir, deux invités d'univers différents. À travers leur parcours, ils vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux de notre société et les défis de demain.
Les éclaireurs sur Europe 1.
Et avec nos deux éclaireurs ce soir, une bouffée d'optimisme, deux exemples vivants et enthousiastes que tous les rêves sont possibles à condition d'y croire ou d'être aidé. À ma droite, le fondateur du leader européen des logiciels libres, il part à la conquête de l'Afrique et de l'Asie et pourtant il est parti de rien ou presque, DJ à Toulon, étudiant acharné et enthousiaste. Bonsoir Alexandre Zapolski.
Bonsoir Nicolas.
À vos côtés, Alexandre, un homme qui rend l'entreprise accessible à tous ceux qui peuvent s'en sentir exclus. Et il a fondé et dirige Passeport d'Avenir. Bonsoir Benjamin Blavier.
Bonsoir Nicolas.
Benjamin Blavier, qu'est-ce que fait Passeport d'Avenir? C'est une entreprise, c'est une association, racontez-nous.
Ah, c'est une association qui existe depuis une douzaine d'années et qui accompagne des jeunes venant de quartiers difficiles, de milieux populaires, dans leur parcours d'études pour faire en sorte qu'ils soient demain des futurs créateurs ou dirigeants d'entreprise.
En leur offrant des stages, du tutorat, c'est un petit peu ça le principe général.
Le principe essentiel, c'est un vieux métier, c'est de créer des rencontres donc entre ces jeunes et des acteurs du monde professionnel qui vont les accompagner tout au long de leur parcours pour qu'ils soient le plus ambitieux possible.
On va creuser et explorer un petit peu votre activité. Vous avez passé votre enfance sur l'île de la Réunion où la population est très métissée, très mélangée. Est-ce que c'est de là que vient l'idée de rendre l'entreprise accessible à ceux qui s'en sentent exclus?
Oui. Dès qu'on creuse un peu pour savoir d'où vient ce genre de motivation, on revient souvent sur des chemins de l'enfance. Bah, c'est un peu le cas. Moi, j'ai effectivement grandi dans un environnement avec une très grande mixité culturelle, l'île de la Réunion, avec un ciment commun qui était le créole, la langue.
Et où toutes les communautés vivaient ensemble sans vraiment qu'il y ait de barrières.
Et où toutes les communautés vivent ensemble et sont mélangées. Alors il y a quand même des difficultés sociales, il y a quand même des tensions, il y a quand même des
situations difficiles. On le sait, on en parle régulièrement.
Difficiles. Ouais. Mais moi, dans mon regard d'enfant, tout le monde était extrêmement mélangé et c'était juste impossible de mettre des gens dans des cases ethniques. Et c'est en arrivant en métropole que je me suis confronté à cette situation de voir qu'il y avait effectivement des cases dans lesquelles on rangeait les gens en fonction de leur origine.
Vous avez fait des études de droit en métropole, spécialisée en ressources humaines. Et vos premières expériences professionnelles, c'est des grands groupes, hein, c'est Bouygues, c'est SFR.
Oui, c'est plutôt des grands groupes dans des métiers de ressources humaines. Bouygues dans la partie BTP, donc sur les chantiers. J'ai été chez Apple pendant quelques années, donc avec un environnement évidemment très différent. C'était plutôt les geeks californiens. Et puis j'ai été chez SFR, opérateur télécom, pendant 6 ans, où j'ai lancé les prémices de Passeport Avenir.
Et c'est dans ces grandes maisons que vous avez senti justement encore un peu plus qu'il y avait des cases, que en tout cas ces grandes entreprises n'étaient pas forcément ouvertes à des jeunes gens qui venaient d'ailleurs.
Oui, en fait, le constat, il est assez simple. Malheureusement, il est même assez partagé. C'est que quand vous regardez qui dirige aujourd'hui les entreprises, bah, vous vous apercevez que ce sont des gens qui ont un peu tous la même origine sociale, les mêmes diplômes, le même âge, souvent le même genre et souvent la même couleur de peau. Donc moi, mon intuition, c'est d'aller voir pourquoi on a cette situation. Et effectivement, un des biais, c'est que pour arriver à ces niveaux de responsabilité, il faut souvent des formations qui ouvre les portes à ça, des grandes écoles, des universités. Et un des soucis, c'est qu'effectivement, ces jeunes de milieux populaires, souvent, n'arrivent pas à ces niveaux de formation qui pourraient leur permettre de grimper dans les entreprises.
Pourquoi ils n'y arrivent pas?
Alors là, il y a
Est-ce que ça vient de l'entreprise? Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de l'idée qu'on se fait de la grande entreprise?
Oui, il y a une foultitude de raisons et il faut remonter très tôt. Certains même disent qu'il faut remonter à la primaire pour savoir pourquoi on en arrive là. Il y a des raisons qui tiennent à l'école sur lesquelles elle doit s'interroger. C'est les questions de carte scolaire, de mode de sélection, de pédagogie. Enfin, il y a une foultitude de choses sur lesquelles l'école doit s'interroger.
Il faudrait une émission entière.
Sans doute toute une série. Par contre, il y a des éléments extérieurs à l'école qui entrent en jeu. Souvent, ces jeunes venant de milieux populaires, ils ont à faire face à ce que nous, on appelle 3 déficits. C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'information sur ce qu'est la vie après l'école, c'est-à-dire les métiers. Qu'est-ce que ça va changer de faire un bac plus 2 ou un bac plus 5? qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, une grande en petite, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, pourquoi c'est important d'aller à l'international. Il y a un vrai manque d'accès. Comment on fait quand on n'a pas de réseau pour se présenter, et comment on fait en plus pour savoir se présenter, il y a des codes à savoir. Et puis il y a un vrai manque de confiance, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui manquent d'exemples de réussite, qui ont le sentiment que les grandes écoles ne sont pas pour eux, alors encore moins le fait d'aller plus tard diriger des entreprises.
Et vous, vous contribuez à ouvrir ces portes. Alexandre Zapolski, le patron de l'Inagora, vous êtes surpris quand vous entendez tout cela, ou finalement c'est quelque chose que vous vivez, vous, dans votre entreprise ?
Bah, nous, on ne vit pas ça à l'Inagora, parce que moi, je suis un des chantres de la diversité. Et souvent, quand on m'interroge sur qu'est-ce qui détermine pour moi le succès, quand est-ce que je pourrais dire j'ai été successful en tant que fondateur et PDG de l'Inagora, je dis souvent quand j'aurai toutes les nationalités du monde à l'intérieur de ma boîte.
Ça fera du monde.
Ouais, mais moi, je suis absolument convaincu que plus on a de diversité au sein des organisations, plus on a de richesse. Et que finalement, la force d'une organisation, c'est de se reposer sur les compétences et des personnalités qui sont très diverses, très complémentaires. Et donc, systématiquement, moi, je pose la question des origines, non pas pour discriminer, mais au contraire pour faire de la discrimination positive et d'essayer d'engager un maximum de gens de différents pays, de différentes régions du monde.
Eh bien, on va y revenir. Alexandre Zapolski, devenu en 20 ans le leader européen du logiciel libre. Benjamin Blavier, qui ouvre la porte des grandes entreprises aux plus modestes d'entre nous. Restez avec nous, les éclaireurs reviennent dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Les éclaireurs sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, les éclaireurs. Nicolas Escoulan.
Les éclaireurs sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et chaque dimanche, je vous propose de découvrir des personnalités qui, par leur parcours, leur talent ou leurs idées, nous montrent que tout est possible à condition d'y croire. Nous sommes toujours avec Benjamin Blavier, à la tête de Passeport Avenir, une association qui casse le mur qui se dresse trop souvent entre les grandes écoles, les grandes entreprises et les jeunes issus des milieux populaires. Et Alexandre Zapolski, cofondateur, PDG de l'Inagora, leader européen du logiciel libre. D'abord, Alexandre, racontez-nous qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ?
Alors, le logiciel libre, c'est des logiciels qui sont librement et gratuitement disponibles sur Internet pour que chacun puisse les utiliser, éventuellement les modifier et les redistribuer. Alors parmi les logiciels les plus connus, certainement par ceux qui nous écoutent ce soir, il y a bien sûr Firefox, qui est un navigateur Internet. Il y a Linux, qui est le système d'exploitation concurrent à celui de Microsoft. LibreOffice, qui est concurrent à Microsoft Office. Et une entreprise comme l'Inagora, nous, on fabrique donc des logiciels libres, mais plutôt pour les autres entreprises. Et on a comme ça une gamme de logiciels que l'on fabrique et qu'on partage avec tout le monde, dans le domaine de la messagerie, du partage de fichiers, de l'identité, de la sécurité.
Et tout ce qui peut exister en termes de logiciels, tout ce qu'on peut retrouver sur son ordinateur, vous le concevez, vous le rendez accessible librement.
Alors nous, on en conçoit une partie, voilà. les logiciels dont je vous parlais. Et puis, on est aussi un expert de tous ceux qui sont disponibles, tous ces logiciels libres qui sont disponibles. On permet à n'importe quelle organisation, publique ou privée, alors notamment on est le grand fournisseur des États, nous on est, notre grand client c'est l'État français, et puis d'autres États dans le monde, et puis de plus en plus quand même les grandes banques, etc. Et donc toutes ces organisations, on leur permet d'utiliser autre chose que les logiciels fabriqués par les grandes firmes aujourd'hui américaines du logiciel, et demain certainement de plus en plus les grandes firmes chinoises. Nous on incarne ce qu'on appelle la troisième voie numérique.
La troisième voie. Alexandre, vous avez grandi dans le sud de la France, à Toulon je crois, sous le soleil. Est-ce que vous aviez ce rêve chevillé au corps que de devenir le leader européen ?
Gamin, je me rêvais plutôt soit maire de Toulon, soit président du rugby club toulonnais.
Ça viendra peut-être un jour.
Ça viendra peut-être un jour, le RCT ou un autre club de rugby. Mais par contre, quand même, à partir du moment où j'ai commencé à faire des études, je savais que ce que je voulais faire, c'était d'être chef d'entreprise. Et je voulais être chef d'entreprise, non pas parce que j'avais des rêves de gloire ou d'argent. Moi, j'ai été élève boursier pendant toute ma carrière. Je viens d'un milieu très modeste. Mais j'avais compris très tôt que l'entreprise, c'était le moyen de transformer la société. En tout cas, c'était un des leviers les plus puissants.
Et ça vous semblait possible à l'époque, justement. Vous dites, j'ai été boursier, j'ai grandi dans un milieu modeste. Et pour autant, vous vous imaginiez que c'était possible pour vous que de devenir patron ?
J'allais, quand j'étais collégien et après lycéen, j'allais dans le petit square au-dessus de là où habitaient mes parents. Et à l'époque, il y avait des grandes vignes là qui étaient devant ce petit square. Et je regardais ces vignes et je me disais, mais plus tard, ton horizon, ça sera bien au-delà en fait de ces vignes. Alors c'est vrai que je suis connu pour aussi beaucoup voyager. Et donc, oui, oui.
Vos vignes, maintenant, elles dépassent, elles vont jusqu'au Vietnam, en Côte d'Ivoire, elles vont très très loin.
Oui, oui, absolument. L'Inagora, c'est présent dans plusieurs pays dans le monde. C'est présent, en fait, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, vous le disiez, au Vietnam. Et donc, effectivement, on est un acteur profondément international. Et donc, à l'époque, oui, j'avais en fait cette ambition. Je ne savais pas que je ferais l'Inagora, je ne savais pas que je ferais du logiciel libre. J'ai rencontré ça, en fait, dans mon école. J'ai fait une école qui s'appelle aujourd'hui Télécom École de Management.
C'était l'Institut National des Télécoms.
Absolument. C'était la grande école des cadres de France Télécom qui est devenue publique au moment où France Télécom, elle, devenait privée. Et donc, j'ai fait cette école. J'ai découvert Internet. J'avais découvert, en réalité, Internet un petit peu avant ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais voulu faire cette école. Dans le cadre de ma deuxième et troisième année, plutôt que de faire des stages dans d'autres entreprises, j'ai choisi, moi, de faire mon stage en tant que créateur d'entreprise parce que je voulais absolument monter ma boîte.
Et donc, votre boîte, comment vient l'idée de la boîte et quelle est, au départ, la première pierre de cette boîte ?
J'ai un premier projet de création d'entreprise qui était un sorte de free avant l'heure parce qu'il était libre et gratuit, surtout à la fois sur l'abonnement et sur la consommation. Donc un fournisseur d'accès à Internet gratuit qui s'appelait Imalis. Et puis finalement, je ne vais pas au bout de ce projet-là parce que je me rends compte que le projet que je voulais faire, qui était un projet technologique, en réalité, il fallait que j'invente surtout un métier de vente de pub. Et ce n'était pas mon domaine. Moi, je voulais faire de la technologie. Et à l'époque, comme tous les fournisseurs d'accès à Internet, je me dis, il faut que je monte mon data center à base de Linux et des logiciels libres. Et je cherche un professionnel pour m'aider. Et à cette époque-là, en France, il n'en existe pas. Et comme je ne vais pas au bout du projet Imalis, je me dis, mais moi, il faut que je me transforme en vendeur de pierres et de pioches, de pelles et de pioches, et je vais vendre en fait les outils à ceux qui veulent les utiliser pour eux-mêmes fabriquer en fait leur propre business. Et donc, je deviens le premier spécialiste de Linux et des logiciels libres en France. Et donc, je lance l'Inagora à la fin de l'année 99, le temps de créer l'entreprise, etc. Ça, officiellement, c'est né en mai 2000.
À quels obstacles les plus importants avez-vous été confronté dans, d'abord, la création d'entreprise et puis même encore aujourd'hui ?
Bon, ça remonte à longtemps, hein, donc il faut j'essaie de me souvenir. Je pense qu'un des défis essentiels du chef d'entreprise au démarrage, c'est l'isolement. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces structures d'incubation, d'accélérateur, etc. Il n'y avait pas la banque publique d'investissement telle qu'elle existe aujourd'hui. Il y avait déjà quelque chose qui s'appelait Oseo, qui était d'ailleurs porté par un mec formidable qui s'appelle Jean-Pierre Denis, qui est maintenant le patron de Crédit Mutuel Arkéa. Et donc aujourd'hui, ça marche plutôt très bien l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, mais à l'époque, c'était très, très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, les principaux défis, c'est un, l'international. Les boîtes françaises sont pas assez tournées vers l'international et on s'intéresse pas assez à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et vous le savez, aujourd'hui, mon grand combat, c'est l'Afrique et notamment l'Afrique numérique. J'espère qu'on en reparlera parce que il y a un champ presque infini d'opportunités et de possibilités aujourd'hui sur un continent qui est sur les mêmes fuseaux horaires en fait que la France. L'Afrique, c'est la chance de la France. Dans beaucoup de domaines et en particulier dans le domaine numérique. Les autres challenges, c'est que aussi, je crois qu'en France, on a la chance d'avoir des très grands groupes, mais on a beaucoup de mal. Ces grands groupes ont beaucoup de mal à travailler avec des grosses ETI et des grosses PME. Et donc, on a un modèle où il y a un modèle un peu en forme de champignon avec beaucoup de grands groupes, très très peu de PME et de grosses ETI, contrairement au modèle allemand qui a plus une logique en fait de filière, qui sait mieux travailler avec son écosystème. Et donc, c'est compliqué pour des boîtes, des PME innovantes, de travailler avec les grands groupes.
Benjamin Blavier, vous qui mettez le pied à l'étrier, justement pour des jeunes qui ne connaissent pas ou qui ignorent ce qu'est le monde de l'entreprise, quand vous entendez une histoire, une aventure comme celle d'Alexandre Zapolsky, vous vous dites que tout est possible ?
Oui, tout est possible, effectivement. C'est-à-dire qu'on a des histoires de ce genre. Alors malheureusement, les statistiques...
Il y en a très peu, des histoires comme
celle-ci. Voilà, les statistiques ne sont pas très bonnes, mais il y a des beaux arbres qui cachent la forêt. Mais effectivement, c'est assez dommage, c'est que l'école française offre souvent des possibilités à ces jeunes pour aller loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même des systèmes de financement, il y a des dispositifs de bourse. On peut aussi passer par l'alternance. Il y a un certain nombre de possibilités qui font que ces jeunes seraient en capacité d'aller loin. Mais souvent, ils sont dans une situation d'autocensure, c'est-à-dire qu'effectivement, ils se l'interdisent. Donc moi, je me réjouis de voir ce genre d'histoire. C'est un peu ce qu'on essaye de faire naître, nous, dans, le, dans l'idée de ces jeunes. On va les voir assez tôt, en première terminale.
Vous les repérez comment, ces jeunes, justement ?
Alors, on travaille avec l'éducation nationale, de manière très proche, avec les enseignants. En fait, on va dans un certain nombre de lycées sensibles, on va dire, en première terminale.
Dans les quartiers, comme on dit.
Dans les quartiers, mais aussi les zones rurales, isolées, oui. Parce que c'est
on
aussi...
Oublie, on voilà, oublie on aussi cette aussi.
Et puis, il y a aussi beaucoup de travail à faire sur les bassins désindustrialisés, où la situation est assez sinistre. Et là, on va voir ces jeunes en leur parlant des études supérieures, en leur parlant du monde de l'emploi, en leur parlant des dispositifs d'aide. On va les voir avec des professionnels de nos entreprises qui viennent témoigner un peu de ce qu'est leur vie en entreprise, de la variété des métiers, de comment ça marche. Et là, on essaye effectivement d'être un peu ce qu'on a tous dans nos histoires, c'est-à-dire d'être des passeurs.
Alexandre Zapolsky, est-ce que le jeune homme de Toulon imagine un jour qu'il serait l'invité du président de la République, qu'il serait l'invité de ministre quand il se promène dans des visites officielles à l'étranger, notamment pour vanter des réussites françaises comme la vôtre ?
Je pense que quand vous êtes né en province, d'un milieu assez modeste, vous savez même pas ce que c'est que le protocole. Et effectivement,
je dis ça parce que ça vous est arrivé. Vous avez accompagné le président, vous avez accompagné des ministres.
Ben oui, moi je suis souvent embarqué
à l'étranger.
Je suis souvent embarqué dans les délégations officielles parce que, en plus de mes fonctions de PDG de l'Inagora, je m'occupe d'international et d'export pour la filière du numérique. J'ai créé la commission internationale.
Vous êtes l'ambassadeur un peu.
Oui, c'est ça. J'ai créé une commission internationale dans notre principal syndicat professionnel qui s'appelle le Syntec Numérique. Et puis, je préside un certain nombre d'instances, dont le GT-Export du comité stratégique de filière numérique. Bon, autant de cycles pour dire qu'effectivement, le sujet international export dans le domaine du numérique, c'est vraiment mon cheval de bataille, ma passion, et je l'applique. Parce que, hein, vous savez, les Anglais disent « we eat our own dog food », je mange la propre nourriture de mon chien. Donc je ne peux pas dire aux autres « il faut que vous partiez à l'international, il faut aller conquérir le monde » et pas le faire moi-même en tant qu'entrepreneur. Donc bien sûr, je me l'applique à moi-même, mais je ne le fais pas en égoïste, je ne le fais pas seul, je partage et j'essaie d'amener avec moi en fait, d'autres entrepreneurs sur le développement de leur boîte en fait, à l'international. Et donc du coup, je me retrouve souvent embarqué. Et je dois dire d'ailleurs que notre président de la République, celui qui va nous quitter là dans quelques jours, a été un formidable ambassadeur pour les entreprises françaises à l'international. Et je remercie moi de m'avoir embarqué avec lui.
Et vous avez fait beaucoup de voyages. Croire en ses rêves, briser les frontières, dépasser le milieu d'où l'on vient. On continue d'en parler avec nos deux éclaireurs, Alexandre Zapolsky, patron et cofondateur de l'Inagora, et Benjamin Blavier, qui dirige Passeport Avenir. Restez avec nous sur Europe 1. Les éclaireurs reviennent dans moins de 2 minutes.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, les éclaireurs. Nicolas Escoulan.
Les éclaireurs sur Europe 1, ce soir nous sommes ensemble avec deux personnalités qui nous montrent que tout est possible, que l'on peut croire en ses rêves, en tout cas qu'il le faut. Avec nous ce soir, Alexandre Zapolsky, PDG, cofondateur de l'Inagora, leader européen du logiciel libre, et Benjamin Blavier à la tête de Passeport Avenir, une association, une plateforme qui ouvre la voie des entreprises aux jeunes qui en sont exclus grâce au stage, au tutorat. À combien de jeunes avez-vous mis le pied à l'étrier ?
Alors, depuis 12 ans, on a vu passer un peu plus de 30 000 jeunes dans nos ateliers ou dans nos opérations de mentorat. Et cette année, on est sur un flux de 6 200 jeunes qui passent dans nos ateliers.
Est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent, ces jeunes à qui vous permettez d'accéder à l'entreprise ?
Oui, alors les toutes premières années, on s'est assuré qu'ils trouvaient un job, mais après, on a un peu perdu le fil. Mais depuis quelques années, on les suit. Ce qu'on sait, c'est qu'ils trouvent tous un job. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois de recherche, une fois qu'ils sont sur le marché de l'emploi, ils ont tous trouvé un job. Pas forcément le job de leur rêve et de leur vie.
Mais en tout cas, c'est un début. Ouais.
Mais voilà, ils trouvent. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'on en a un certain nombre qui se réengagent à nos côtés. C'est ce qu'on appelle, nous, les leaders différents. Ce sont des jeunes qui sont engagés avec nous pour revenir parler de leurs expériences.
Et pour eux-mêmes être des tuteurs. C'est-à-dire que ceux qui ont bénéficié du tutorat vont ensuite transmettre ce qui...
Oui, oui, oui. On commence à avoir ce genre d'histoire qui est assez formidable. Bon, je pense à un jeune en particulier qui était à Stinck. On a été chercher au lycée, qui a réussi à devenir ingénieur et qui est maintenant réengagé auprès d'un jeune plus jeune que lui dans le même lycée avec la même équipe de profs pour le faire grandir.
Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre les grandes entreprises, notamment d'accepter ces tuteurs et d'accepter cette forme de tutorat pour faire venir justement ces jeunes ?
Non, les grandes entreprises sont souvent assez engagées sur la question. Elles ont envie d'y aller. En tout cas, il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui sont partants. Nous, on a 30 entreprises à nos côtés avec des dirigeants d'entreprises qui sont partants. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils souhaitent aller chercher ces jeunes, non pas par compassion, mais surtout parce qu'ils sont bien conscients que c'est un vrai réservoir de talents. Et effectivement, la diversité crée de la richesse. Ils savent qu'en allant chercher ces jeunes, ils vont aussi aller prendre des jeunes qui sont souvent capables de créativité, capables de surmonter des obstacles parce que la route n'était pas tracée pour eux. Ils connaissent des codes différents puisqu'ils naviguent entre les codes de leur quartier et les codes de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ils perçoivent ce potentiel et on a des dirigeants d'entreprise qui effectivement se mobilisent avec nous sur cette idée de d'aider l'école. Ils ont bien conscience que il faut aller non pas simplement à la sortie des tuyaux si on veut avoir de la diversité, il faut aller bien plus en amont, aider l'école dans sa mission d'ascenseur social.
On en parlait un petit peu tout à l'heure, la plus grande des barrières c'est quoi aujourd'hui? C'est le nom que l'on porte parce qu'on est d'origine immigrée, c'est la région où l'on vit, c'est le handicap, est-ce qu'il y a
vous avez
une barrière qui est plus forte que les autres?
Vous avez un peu toutes ces barrières, mais c'est vrai que le fait de grandir dans un milieu populaire, en particulier si vous êtes issu de l'immigration, ça peut constituer un élément de discrimination. Moi, la plus grande barrière, je considère qu'elle est quand même dans la tête. C'est-à-dire qu'on a des chiffres assez marquants de l'éducation nationale qui disent qu'à résultat équivalent au brevet ou au niveau du bac, les jeunes de milieu populaire vont moins faire des études longues que les autres.
En préparant l'émission, justement, j'ai découvert des chiffres qui sont édifiants, que nos auditeurs connaissent peut-être, mais 40% des enfants de cadres arrivent à bac plus 5 contre seulement 4% chez les enfants d'ouvriers. C'est 10 fois moins.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est encore possible aujourd'hui en France.
C'est encore possible aujourd'hui. Vous avez à peu près les mêmes phénomènes quand vous regardez aussi le type des bacs qu'ils vont obtenir. C'est-à-dire bien que sûr. Vous avez beaucoup de jeunes de milieux favorisés qui ont un bac S et vous avez 10 fois moins de chances quand vous êtes enfant d'ouvrier d'avoir un bac S qui pourtant ouvre beaucoup de portes des filières les plus sélectives. Et puis ce que je disais, c'est-à-dire qu'à résultat équivalent, au niveau du bac, les jeunes de milieu populaire vont être 38% moins orientés vers des filières longues de l'enseignement supérieur que des enfants de milieu favorisés. Donc ce sont quand même des chiffres qui continuent à exister, qui veulent bien dire que les verrous sont aussi beaucoup dans la tête de ces jeunes. Il faut aller leur tendre la main pour leur dire que c'est possible.
Alors il y a les verrous dans la tête, il y a les verrous quand même dans le nom. Est-ce que le CV anonyme, vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?
Le CV anonyme, à l'époque d'Internet, beaucoup, ouais. Dans un moment où le recrutement se fait toujours par réseau, j'y crois pas vraiment en tant que solution technique. Ça a juste eu un avantage, ça a été de lancer le débat. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça a obligé les recruteurs à s'interroger.
Ouais, ouais. Ça questionne. Vous, Alexandre Zapolski, vous recrutez dans votre entreprise?
Oui, bien sûr. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, je pense que quand on est un jeune issu de l'immigration deuxième ou troisième génération d'origine, par exemple, du Maghreb, avec les opportunités économiques qui se développent au Maroc, l'Algérie qui n'est pas encore tout à fait ouverte, mais qui va se développer. L'Algérie, c'est 40 millions d'habitants. C'est une nouvelle France qui est à 2 heures, en fait, de Marseille. Avec des gens, d'ailleurs, absolument adorables, d'une gentillesse absolument extrême, comme le sont les Marocains et les Tunisiens. Pareil, la Tunisie, qui, malgré ses difficultés, a toujours été quand même un des pays assez développés du continent africain. Ben, naturellement, dans toutes les entreprises qui cherchent à développer leurs relations économiques avec les pays du Maghreb, c'est un avantage qu'aujourd'hui de s'appeler Mohamed Amine, qui est le nom, par exemple, du jeune de 27 ans que moi j'ai recruté, qui sortait de Centrale et qui est devenu le patron à 26 ans de mes activités en Tunisie et qui cartonne. Il me fait toutes les conneries d'un jeune de 26 ans, mais il apporte aussi toute l'énergie et toute la vitalité d'un jeune de 26 ans. Où je bosse avec Soukaina sur le développement de mes activités au Maroc, elle n'a pas 25 ans. Et donc ces jeunes, leurs origines est aujourd'hui en fait une chance. Et je pense de la même façon à tous les jeunes d'origine africaine ou même africains venus faire
leurs études en France.
Ouais. Aujourd'hui, c'est une formidable opportunité pour les entreprises françaises pour aller développer de l'activité en Afrique en embauchant ces jeunes. Et il y a aujourd'hui des organisations qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, sur l'Afrique, il y a un club qui s'appelle le Club Efficience, qui est le club de la diaspora, qui regroupe alors ceux qui ont réussi, mais qui font beaucoup de choses aussi pour les plus jeunes Africains. Et c'est des partenaires aujourd'hui des entreprises conquérantes. Puis je ne vous parle pas des opportunités depuis le Maghreb au Moyen-Orient, hein, avec une Arabie Saoudite qui doit absolument en fait développer enfin sa propre économie et gérer l'après-pétrole. Et donc, vraiment, il y a des opportunités de business partout dans le monde. Il faut juste être en mesure de saisir ces opportunités-là et de faire confiance à cette jeunesse qui ne demande qu'une chose, c'est de réussir aux côtés d'entrepreneurs français.
Partout dans le monde, avant de se quitter, vous, un de vos concurrents, c'est Microsoft. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour vous doubliez Microsoft ? Rêvons. Puisqu'on parle de rêves et de barrières qu'on doit franchir.
Je vais vous dire quelques-unes de mes convictions. D'abord, je ne crois pas à la fin des temps. Je pense qu'il y aura un jour 2050, il y aura un jour 2100, il y aura un jour 2500. Ce que sera le marché du numérique à ce moment-là, personne ne le sait aujourd'hui. Et ce qui est certain, c'est que vous avez une bonne partie du Nasdaq, donc la bourse américaine, au moins 25% des entreprises qui n'existaient pas il y a 15 ans de ça, qui sont aujourd'hui au Nasdaq aux États-Unis. Donc, vous avez un renouvellement de l'élite économique aux États-Unis comme au niveau mondial qui est absolument certain.
Et qui ne se produit pas suffisamment vite en France ?
Oui, bien sûr. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien imaginer, alors vous parlez de cette entreprise-là, mais on pourrait en parler d'autres, on pourrait très bien imaginer que cette entreprise un jour décline. Moi, si je continue à bien faire mon travail d'entrepreneur, si je me lève tôt tous les matins, que je travaille beaucoup toute la journée et que je me couche tard le soir, et peut-être pas ma génération, mais il y aura aussi la génération d'après, les autres Zapolsky. Dans le groupe Zapolsky, il y en aura d'autres, les neveux ou les enfants. Et bien peut-être qu'un jour, effectivement, on aura un champion français, européen dans le domaine du numérique.
On marque une dernière pause et je vais vous demander à l'un et à l'autre quelle est votre idée pour rendre le monde de demain meilleur. À tout de suite pour les éclaireurs.
Europe 1, les éclaireurs. Nicolas Escoulan.
Les éclaireurs sur Europe 1, nous sommes ensemble avec Alexandre Zapolsky, PDG, cofondateur de l'Inagora, et Benjamin Blavier, à la tête de Passeport Avenir. Un petit rituel pour terminer cette émission, c'est celle de trouver une idée qui pourrait rendre le monde de demain meilleur. Benjamin Blavier, est-ce que vous avez une idée simple en quelques mots ?
En quelques mots, moi je vais vous dire ce qui me met de bonne humeur le matin, c'est de constater que la fraternité, ça existe encore. C'est-à-dire que j'ai des gens dans des entreprises qui se mobilisent, des jeunes qui se mobilisent, des profs qui se mobilisent. En fait, ce que je me dis, ce qui pourrait être pas mal, ce serait qu'on propose un dispositif de mentorat, d'accompagnement individuel pour aller les 10% de jeunes les plus défavorisés de France, pour aider chacun à choisir son avenir, c'est-à-dire à continuer à l'école, à s'insérer professionnellement et à progresser professionnellement, pourquoi pas lancer aussi son entreprise. Et là, je crois que si on arrive à faire ça massivement, on pourra se dire qu'on a changé des choses en profondeur.
Avoir un guide pour demain. Alexandre Zapolsky, vous, votre idée qui pourrait rendre le monde meilleur ?
Bon, j'en ai une, mais j'ai pas le droit d'en parler puisqu'en fait, à cause du CSA, sinon je vais être...
Je sens qu'on va parler de politique.
Je vais être coupé. Non, mais c'est évident pour moi qu'un premier élément de réponse, ça serait de dire qu'il faut voter pour le bon candidat là dans quelques jours. Mais au-delà de ça, je crois que le sujet essentiel, c'est de développer la bienveillance. On a besoin d'un monde qui soit plus tourné vers la bienveillance, développer l'économie de la bienveillance. Tout n'est pas égal par ailleurs. Quand on est consommateur, on peut faire des choix qui sont des choix éclairés, des choix intelligents.
Des choix citoyens. Ouais.
Exactement. Et le cumul, si vous voulez, de la bienveillance. Mais la bienveillance, c'est, Nicolas, ce que vous faites typiquement aussi avec Europe 1 dans votre émission.
Merci.
Ben oui, en invitant effectivement des gens qui pensent différemment, des gens qui pensent que tout est possible. C'est ça. Il faut à un moment donné qu'on accepte de regarder le monde autrement. Et puis surtout avec un œil positif et progressiste.
C'est ce que vous nous montrez en vous écoutant et puis pour suivre un petit peu l'activité de l'Inagora, qui est une belle entreprise française, une très très belle réussite. Alexandre merci. Zapolsky, Benjamin Blavier, merci à tous les deux d'être venus nous éclairer ce soir. L'émission est évidemment à retrouver en podcast sur europe1.fr. Les éclaireurs reviennent dimanche prochain, 19h20. Merci à Frédéric Dervin à la réalisation et Marjorie Adelson qui m'a aidé à préparer l'émission. Place au sport avec vous Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. En effet, le sport et le football en ce dimanche avec nos grands débats. Foot dans quelques instants en compagnie de nos experts et évidemment, le grand match de la soirée, ce sera le Paris Saint-Germain face à Guingamp à suivre en intégralité, coup d'envoi à 21h mais jusque là, on aura eu l'occasion évidemment de deviser autour de Paris, mais également de Lyon qui a perdu hier et puis surtout du match de mardi à suivre sur Europe 1 en Ligue des Champions. Dortmund-Monaco, à tout de suite.
À tout de suite, Lionel. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Europe 1.